Notre entreprise donc, agit sur trois pôles. Un pôle de conseil, donc c'est celui que je viens de vous évoquer. On accompagne les structures culturelles, les entrepreneurs, mais également les secteurs professionnels à développer leurs projets culturels qui ont un attrait au numérique et à les structurer. On a un volet événementiel où chaque année, je vois dans cette salle des personnes qui étaient là, on organise un événement qui s'appelle le Numix Lab. Donc c'est un événement qui est européen, qui est itinérant, qui se passe dans différentes capitales européennes. Et on a pour objectif de créer un réseau de créateurs, un réseau de structures culturelles, de fédérer à l'échelle de l'Union européenne. Mais on est également avec le Canada, avec qui on co-construit cet événement, et des délégations d'Afrique du Nord, dans le Maroc. Et un volet d'études, et donc là c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque l'on réalise des études sectorielles sur les dynamiques numériques qui traversent les secteurs de la culture, et plus précisément sur le monde des musées, qui est quand même notre cœur de métier. Donc Correspondance Digitale, c'est une agence qui a été fondée en 2012 par Antoine Rollin. Donc l'étude, donc pour revenir sur son titre, elle s'appelle donc Médiation numérique dans les musées, quelle durabilité. On l'a présentée le 20 novembre donc de cette année, donc elle est toute récente. Elle est accessible en ligne, vous pourrez la retrouver à la fin de ma présentation. Donc c'est une étude qui est relativement légère puisqu'elle fait 250 pages. Mais pour vous rassurer, on a également mis les éléments principaux, donc en page 100, si à retenir, pour que vous puissiez avoir les principales logiques qui s'en dégagent. Donc quelques mots sur l'étude. Pour commencer, un peu de contexte, lorsqu'on a eu la volonté de réaliser cette étude avec donc l'Opus, qui est dirigé par Olivier Haïm, qui est son directeur scientifique, on se positionnait dans quatre éléments à structurer. Le premier, donc, on avait une injonction économique. Donc selon l'Observatoire des politiques culturelles, plus de 50%, et je pense que dans cette salle, beaucoup de personnes se reconnaîtront, plus de 50% des collectivités ont vu leur budget réduire, donc le budget des cultures réduire. Deuxième élément, les effets de la crise sanitaire. Lors de la crise sanitaire, les projets numériques se sont développés considérablement, étaient peut-être presque omniprésents, mais à l'issue donc de la crise sanitaire, disons à partir de 2022, cette dynamique s'est calmée, et on a vu presque un effet de retrait. Donc on a eu la volonté de voir en fait qu'est-ce qui restait et comment ça se structurait d'un point de vue culturel, d'un point de vue projet numérique. Une injonction technologique, aujourd'hui on est tous dans nos professions mais également dans nos quotidiens confrontés à la question de l'intelligence artificielle, mais également dans le secteur de la médiation, la question de l'immersif numérique se pose de plus en plus et devient de plus en plus présent. Et cela doit être mis en corrélation avec les effets de la crise environnementale, notamment la création de ces projets-là ont de vrais impacts sur notre planète, et il faut l'agir en étant conscient. Alors pourquoi une étude? Donc dans un premier temps, il était question de dresser un panorama des offres de médiation numérique, on va y revenir, mais celles-ci sont très diversifiées dans le secteur muséal, et mettre des mots sur ces dispositifs nous semblait nécessaire. La deuxième question était d'identifier ces dynamiques et les enjeux inhérents à celles-ci. On y verra, il y en a quatre principales. Enfin, il était question également donc, d'illustrer ces différents enjeux et montrer les approches qui sont adoptées par les professionnels du secteur muséal, mais également par les institutions. Alors, pour faire un peu de méthodologie, dans un premier temps, nous avons fait un état de l'art donc, d'un point de vue universitaire et livresque des questions donc, sur la place des dispositifs numériques de médiation. Donc on a consulté les rapports officiels, des travaux universitaires, des articles, pour pouvoir nous imprégner en fait de ce qui existait, ce qui était fait, ce qui était fait. On a ensuite fait 4 entretiens universitaires que vous pourrez retrouver dans l'étude, notamment avec François Mérès, Bruno Bachimon, Emma Sandry et Jessica de Bideran. À cela s'est adjoint 10 entretiens avec des réseaux professionnels comme l'ICOM, la FEMS, l'AMSTI, et enfin 20 entretiens avec des musées qui nous ont permis de cibler les besoins, les enjeux et les façons dont les musées s'adaptaient à ces questions-là. Donc ça découle à notre étude qui a été faite en deux volets. Dans un premier temps, un panorama des musées, des offres numériques, les enjeux et pistes de mise en œuvre qui sont liées. Et dans un second temps, des retours d'expérience avec des fiches d'entretien, donc qui sont restitutives des entretiens que l'on a faits, et également des fiches projets, on fait des analyses sur des projets. Alors, pour cette présentation, on a réfléchi à vous la présenter en trois temps. Donc le premier temps, c'est le temps de la diversité des musées, donc on va voir ensemble la variété des approches qui sont adoptées par ces musées. Dans un deuxième temps, c'est ce que cette diversité des approches répond à une variété d'enjeux et de dispositifs. Et enfin, je vous brosserai tout de même les différents enjeux et défis qui sont liés. C'est très scolaire hein, ma présentation, mais c'est parce qu'on a quand même fait ça de manière très scolaire, donc ça se ressent. S'il fallait que j'ajoute un petit détail. Alors pour ce qui est des musées, on a pris le soin d'étudier l'ensemble des types de collections qui constituent les musées, à savoir les musées d'art, les musées donc civilisationnels, les musées d'histoire et les musées de sciences et techniques, c'est-à-dire les musées qui ont des collections physiques. On a volontairement exclu dans notre étude les musées qui n'avaient pas de collection, notamment les galeries d'art contemporain et les centres d'art. À travers cette diversité, on observe que les programmes de numérisation sont vraiment différenciés d'un musée à l'autre. Par exemple, un musée scientifique ne va pas mettre en place les mêmes dispositifs de médiation qu'un musée d'art, par exemple. Ce sera très différent. On voit que les logiques de co-conception et de co-réalisation évoluent aussi beaucoup en fonction des types de musées. Et on voit que les espaces donc, d'expérimentation et donc d'utilisation des données, d'intégration donc, de ces projets-là, évoluent aussi beaucoup. Donc là, on vous a également référencé les principaux chiffres clés, donc du nombre de chacun de ces musées. Et élément que je dois comme tout de suite dire, les musées que l'on étudie, et ceux auxquels je parle aujourd'hui, sont des musées qui sont labellisés Musées de France. Donc ça constitue en plus de 1200 musées aujourd'hui. On aurait pu aller beaucoup plus loin si on s'était fait à d'autres définitions comme celle de l'UNESCO, mais c'est vrai que la définition du Musée de France est structurante et nous a permis d'évoluer avec des jalons assez précis. Alors, selon les moyens et selon les modèles organisationnels, il faut tout de même montrer que les approches sont variées. Donc je sais que je suis pris par le temps, donc je ne vais pas pouvoir aller vraiment dans le détail sur cette slide-là, mais en France, typiquement, on a deux type de structure organisationnelle donc, des musées, à savoir les musées qui ont une certaine autonomie de gestion et les musées qui sont en régie. En fonction de ce mode organisationnel, le degré d'autonomie, qu'elle soit réglementaire, économique ou organisationnelle, évolue. Donc, c'est-à-dire qu'un EPCC, donc, un musée qui a une autonomie de gestion vraiment développée, aura une plus forte liberté d'un point de vue économique et une plus forte liberté d'un point de vue organisationnel. En revanche, les musées qui sont en régie ont moins de liberté dans l'ensemble de leur autonomie parce qu'ils sont sous tutelle en fait, d'une autre institution, d'une autre collectivité. Donc, pour ce qui est de la diversité des approches et donc la variété d'enjeux et des dispositifs, en fait, on constate qu'il y a vraiment de nombreuses offres numériques et donc on voit que ces différentes offres-là vont répondre en fait à des besoins et des enjeux de médiation qui sont tout à fait différents. Donc là, on a listé 9. Un dispositif numérique de médiation peut être mis en place pour donner un sens en fait à un parcours de visite en termes d'orientation et de signification. Donc là, ce sont des choses qui sont très opérationnelles. Ça peut se traduire par une application, ça peut se traduire par quelque chose, enfin un dispositif mobile comme une tablette, un téléphone qui va être donné à l'entrée de la visite pour que les visiteurs puissent avoir une certaine forme d'autonomie. Ça peut être également, ces dispositifs peuvent aussi répondre à la volonté de restituer un objet dans son lieu d'origine ou de reconstituer un patrimoine qui a disparu ou qui est exposé partiellement à ce type de menace-là. Ça, on l'observe vraiment particulièrement dans les musées donc, d'archéologie où, par exemple, à Vibracte, Vibracte n'est pas dans notre étude, mais par exemple à Vibracte, donc en Bourgogne, il y a vraiment une volonté par des tablettes, par des dispositifs qui ont été créés à partir de cela, de redonner des informations. Oui, c'est vous. Redonner des informations sur ce qui a disparu. Il y a également une logique de développer une approche donc artistique et créative d'un sujet. Donc, si des personnes se reconnaissent, vous pouvez interagir hein, parce que c'est quand même l'objectif aussi de ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que le musée peut être aussi une place de créativité où, à travers un dispositif, on va pouvoir donner vie, en fait, donner vie ou augmenter une partie de la visite. Étendre l'accès à des ressources archivistiques ou muséographiques complémentaires. Là, un exemple clé qu'on a pu étudier dans cette étude-là, C'est donc, on a deux musées principaux qui en témoignent, la Cité du Vin et la Cité internationale de la francophonie. La Cité du Vin, à Bordeaux, avait, si je ne me trompe pas dans les chiffres, près de 800 heures de contenu. 800 heures de contenu, ça commence à être assez important, et je pense que les visiteurs qui ont écouté ces 800 heures pendant une visite sont assez rares. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet en fait aux visiteurs d'avoir une autonomie de visite. Il peut spécialiser la visite, il peut se faire guider. Donc, cette banque de données à la disposition du visiteur permet vraiment de modeler la visite. On peut également donc proposer une approche multisensorielle. Donc ça, c'est assez développé, donc soit par l'image, soit par le son, mais également par l'odeur. Ça se développe de plus en plus. Donc pour ce qui est des dispositifs olfactifs, notamment pour ce qui est du musée de la marine, lorsque l'on entre dans le musée de la marine à Paris, ça peut être très faible, mais ça existe. On sent l'odeur de la mer. Donc ça plonge le visiteur, la visiteuse dans une ambiance. Donc comme ce que je vous disais, ça permet de personnifier également la médiation. Et enfin, les dispositifs ont aussi une volonté d'expliciter des phénomènes complexes, de les reconstitualiser. Là, un exemple très actuel, au musée de l'Homme. Les musées de l'Homme a développé, donc dans sa dernière exposition sur les momies, un dispositif de médiation qui montre comment la momification se faisait. Donc, c'est quelque chose qui a été fait en partenariat avec Ubisoft, et c'est très didactique, et ça permet d'expliciter quelque chose qui n'est pas du tout. Et enfin, et c'est peut-être le cœur, en fait, une des choses les plus importantes dans ces dispositifs-là, ça permet de créer une approche plus ludique, voire de jouer avec le visiteur. Donc, le musée est un lieu qui, par sa définition, peut être également familial, peut permettre à la famille de se concentrer, et cette dimension ludique, cette dimension participative, est tout à fait importante. Alors, pour ce qui est des offres de médiation numérique, on peut citer quatre offres principales. Alors, pour ce qui est de données, celles-ci viennent d'une étude qui a été faite donc, par les musées de France et par le ministère de la Culture en 2024. Donc, on recense quatre, on va dire, types de médiation, donc les bandes interactives, les audioguides et les applications de visite. Pour ce qui est de l'IA et des contenus immersifs, ils sont cités, mais aucune donnée n'a été mentionnée. J'en viens aux enjeux et défis. Donc une fois que ce panorama a été fait, donc ça c'est pour revenir sur notre étude, c'est la première partie de l'étude, on a pu citer quatre principaux défis qui sont structurels et que l'on observe sur l'ensemble en fait de ces dispositifs. Le premier défi, c'est un défi de conception et de durabilité. Aujourd'hui, si on décide de mettre en place un dispositif de médiation, si celui-ci est fait uniquement pour une période de 6 mois, c'est un investissement en argent et en temps qui s'avère être tout à fait inutile et qui peut avoir des vraies répercussions sur la vie du musée. Le deuxième défi, c'est un défi de collaboration. Donc les projets, on a pu le voir ce matin, qui sont mis en place dans les musées, nécessitent des partenariats, mais nécessitent des mises en commun, des mises en compétences communes, et ces mises en relation doivent être anticipées pour une vraie durabilité de ces projets-là. Troisième défi, c'est un développement plus quantique où il est nécessaire de réussir à mesurer les usages et les pratiques des professionnels d'un côté et des visiteurs de l'autre pour ce qui est de ces projets-là. Et enfin, le dernier défi, c'est un défi de pérennité, c'est-à-dire que les dispositifs qui sont mis en place peuvent être menacés, c'est-à-dire quelque chose de tout simple, mais si un contrat de maintenance de ces dispositifs-là n'est pas anticipé, lorsque le projet a un bug, on va dire, avec le logiciel, eh bien, ça peut tout à fait mettre à nul tout le dispositif de médiation qui a été anticipé. Donc, on arrive en fait à l'issue de ces quatre défis-là, on arrive à une question qui est plus éthique, à savoir quel est le rôle sociétal d'un musée face à l'innovation. Alors, pour ce qui est des quatre défis, pour aller un petit peu plus dans le détail, donc le premier défi, le défi de conception. Si je décortique cet enjeu-là, donc il s'agit de tendre vers la sobriété et donc de s'engager donc dans une politique éco-responsable qui est active. Donc je pense qu'on a tous ici conscience que n'importe quel type de projet de médiation numérique nécessite des terres rares, nécessite a une empreinte carbone qui est tout à fait importante, et donc en tant que professionnel du secteur de la culture, on doit respecter être conscient de ces enjeux-là. Il y a également la question de la conception donc, des projets numériques avec les publics et pour les publics. Et enfin, la question de la conception des formats qui doivent être interopérables. Donc ces formats, ces enjeux-là sont tout à fait présents dans le cadre d'un parcours permanent, mais également dans le cadre d'expositions temporaires. Et donc là, les différents exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les différents exemples que l'on mobilise ici sont des musées avec lesquels on a pu sans nous entretenir et sont des musées avec lesquels on a pu faire des focus dans la partie 2 sur les entretiens de notre étude. Vous pourrez les découvrir. Le deuxième défi, c'est le défi de la collaboration. Donc c'est-à-dire qu'il est question de structurer donc une approche stratégique sur le long terme. Il est question d'identifier et donc de mobiliser les partenaires les plus pertinents. Et enfin, il est question de gérer les relations et les modèles de collaboration, donc ils doivent être pluriels, tout en tenant le cap, c'est-à-dire la diffusion du projet de manière optimale. Le troisième défi, c'est celui de la collaboration. Donc on le voit, un projet numérique s'appuie sur différents types de partenariats qui, en fonction de chaque partenaire apportera sa pierre à l'édifice et permettra de rendre très concret et de rendre très complet ce projet-là. Et donc, définir un bon mode de partenariat sur la mise en place de ces projets, c'est lui donner une vraie pérennité et surtout un sens. Le troisième défi, donc, c'est celui qui est de développer et de mesurer les usagers pratiques. Pour savoir si un dispositif numérique de médiation dans un musée est cohérent, il faut évaluer sa pertinence, notamment la pertinence de son usage. Il est question également de l'évaluer sur le long terme. Et enfin, il est question d'avoir un regard réflexif dessus, c'est-à-dire savoir si ce projet est cohérent avec le projet social et culturel du musée, si ce projet est cohérent avec la mission du musée en elle-même. Et le dernier défi, c'est celui de faire vivre et pérenniser un projet. Donc, sauf quand le musée est créé ex nihilo, mettre en place un dispositif numérique de médiation dans un musée, c'est repenser la muséographie, c'est adapter la muséographie qui est en place, et donc ça nécessite, ça soulève un certain nombre d'enjeux. Il s'agit également, et c'est un des points les plus importants et qui est revenu quasiment de manière à chaque fois dans nos entretiens, d'assurer la montée en compétence des équipes. Parce que c'est bien d'avoir un projet qui est attirant, qui est fini, mais il s'agit de donner aux équipes la possibilité de savoir se l'approprier, savoir le maintenir, savoir le mettre en place, savoir le mettre à jour. Et si cet élément-là n'est pas anticipé, ça peut conduire à un terme du projet. Donc, la participation des équipes, quel que soit le poste de personne concernée, est cruciale. Et enfin, c'est ce que je disais, anticiper les conditions de maintenance. Donc, lorsqu'un projet est mis en place, il faut tout de suite penser à la façon dont celui-ci sera maintenu, soit par l'entreprise qu'il a livrée, soit par des prestataires, soit en interne, par une personne qui travaille dans le musée. Donc, en ouverture, on peut se poser la question, quel est le rôle d'un musée face à l'innovation? Parce que dans notre société, le musée quand même incarne une forme d'autorité, d'exemple à suivre. Et donc, il est question donc, de savoir proposer des objets donc, dans la durabilité, d'un point de vue économique et éco-responsable. Il est question de mettre l'innovation au service du sens, parce que lorsqu'un projet est créé uniquement pour accomplir ou suivre une surperformance, on va dire, numérique ou technologique, finalement, on s'éloigne tout de même du sens et des missions du musée. La question des modèles participatifs, c'est-à-dire que un projet qui marche est un projet qui a réussi à mobiliser les équipes. Donc dans l'étude, on montre quand même qu'il y a des projets qui ont été co-construits avec des équipes, mais également les publics et les partenaires. Mais on a pu le voir ce matin encore. Et enfin, la souveraineté des usages et des contenus. La plupart de ces projets peuvent être menacés, notamment par les grosses entreprises technologiques, notamment les GAFAM, qui peuvent placer le musée et le studio de création dans un phénomène de dépendance vis-à-vis de ces entreprises-là, qu'il s'agisse de la mainmise sur le logiciel, mais également des données. Et donc ces éléments doivent être réfléchi et anticipé. Donc pour ce qui est de l'étude, donc ça c'est en page 100, donc je ne vais pas vous lire toute la partie à droite parce que sinon je vais faire un peu maître hibou, mais par contre on a donc référencé les 10 points principaux donc de notre étude que vous pourrez donc découvrir à la fin de la première partie. Donc si pour tenir quelque chose, c'est qu'il est question de sobriété numérique, de responsabilité environnementale, du positionnement éditorial et scientifique, de la stratégie de financement sur le long terme, de l'ancrage territorial et des modèles de collaboration, donc d'une mise en adéquation et des pertinences au public, aux collections et aux pratiques, de la capacité à faire vivre un projet de médiation de manière élargie, d'impliquer le musée dans la maintenance de ses projets, d'intégrer donc le musée dans son projet scientifique et culturel, et enfin d'affirmer le rôle qu'a le musée vis-à-vis des changements sociétaux et environnementaux de manière structurelle. Et donc sans plus attendre, voici notre étude. Logiquement, le QR code fonctionne parce que je l'ai changé hier soir, parce que la dernière fois il ne fonctionnait pas. Et donc s'il ne fonctionne pas, vous pouvez m'écrire. Et donc dans tous les cas, cette étude est accessible donc, via le lien suivant, donc institut-opus.sorbonne-université.fr, et les mots-clés, vous tapez Opus Source, donc c'est le think tank qui a édité cette étude-là, et vous pourrez très facilement trouver l'étude. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, ou je crois qu'il y en a, enfin, je sais qu'il y a un atelier qui nous attend. Voilà, je vous remercie pour tout.
Oui, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, je peux vous passer le micro. Pas de questions. D'accord, donc sans plus tarder.